Bienvenue à toutes et tous sur Startup Job Story, le podcast qui décrypte les métiers en startup. Proposé par la Fresh Tech in the Alps, le collectif des startups alpines, il invite à découvrir les métiers de demain à travers le regard de celles et ceux qui les exercent aujourd'hui. C'est Mathilde qui se charge d'interviewer notre invité. Allez, c'est parti!
Bonjour, je suis Mathilde Gandon, je travaille pour la French Tech in the Alps à Grenoble. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Isabelle Panke. Bonjour Isabelle.
Bonjour Mathilde.
Donc merci de te prêter à l'exercice de décrypter le métier que tu occupes, puisque tu es data scientist au sein d'une start-up grenobloise qui s'appelle MeteoSwift. Ouais. Avant de rentrer dans le détail de ce que ça veut dire ce métier et ce que tu fais au sein de cette start-up, est-ce que tu peux nous dire quel est l'objet que tu as ramené ?
L'objet, c'est mon ordinateur, parce qu'il il est avec moi toute la journée. Comme data scientist, on travaille premièrement avec l'ordinateur, on est en train de coder. Du coup, j'ai amené mon ordinateur.
C'est l'objet que tu utilises certainement le plus dans tes journées.
Oui, exactement.
Très bien. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je le disais à l'instant, tu es data scientist. C'est un terme anglais. Est-ce que ça a un équivalent en français ?
C'est un job assez récent, du coup, c'est vraiment nouveau comme terme. Je pense que c'est quelques années que ça existe. Et du coup, ça, comme beaucoup de choses qui sont nouveaux, un nom anglais qui est data scientist, il n'y a pas vraiment un équivalent en français. Mais c'est quelqu'un qui travaille avec des données et qui essaye de trouver trouver du sens dans les données.
Et alors c'est vrai que c'est, il n'y a pas forcément de traduction en français, mais pourtant c'est un terme qu'on entend beaucoup et de ouais. plus en plus. C'est vraiment très courant dans un maximum de startups. Donc c'est quelqu'un qui travaille avec des données. Des données, finalement, ça peut concerner tout et n'importe quoi. Souvent, ça a l'aspect de chiffres.
Oui, exactement, mais ça peut être... Oui, comme tu dis, tout et n'importe quoi. Ça peut être des données médicales, ça peut être des données environnementales, ça peut être vraiment tout. Et le terme data scientist, il est relié aussi avec l'intelligence artificielle, parce qu'on utilise l'intelligence artificielle pour interpréter les données et pour trouver des corrélations, des relations, des données et pour pouvoir prédire des choses avec.
Très bien. Concrètement, tu travailles dans cette start-up qui s'appelle MeteoSwift. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'activité de la start-up pour qu'on comprenne mieux ce que tu fais dans le cadre de cette activité ?
Oui. Alors, MeteoSwift, c'est une start-up qui travaille dans l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables. Du coup, elle fait des prévisions d'énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien. Et on fait beaucoup, surtout sur l'éolien. Et on essaye de prédire pour le jour même ou un jour en avance l'énergie qui va être produite par des éoliennes. Pour ça, on utilise les prévisions de météorologiques et on essaye de comprendre avec qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans le futur comme production. Et c'est très important aujourd'hui parce qu'on est sur un système plutôt... des énergies pilotables avant, comme le nucléaire ou des centrales de charbon, on peut les allumer. Si on a une demande d'énergie, on sait exactement qu'est-ce que ça va produire, on peut les allumer. Mais des éoliennes ou des solaires, on ne peut pas allumer comme ça, parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va produire demain, combien de vent il va avoir, est-ce qu'il va avoir beau temps ou pas. Ce n'est pas toujours 100% fiable les prévisions météorologiques. Et en plus, même si on sait bien qu'est-ce qu'il va avoir comme vent, on ne sait pas toujours exactement qu'est-ce que, par exemple, l'éolienne va produire, parce qu'il y a souvent des parcs éoliens. Du coup, il y en a plusieurs éoliennes qui ont une à côté de l'autre. Et on va parler de l'ombre du vent. Du coup, la première éolienne, elle va prendre tout le vent, mais elle va perturber le vent derrière. Et du coup, l'éolienne qui est derrière, elle va recevoir un peu moins de vent ou un peu de vent perturbé. Et du coup, elle ne va pas produire la même chose que la première. Et après, il y a d'autres choses comme le terrain autour. S'il y a une montagne sur un côté, ça va influencer le vent qui vient de ce côté-là. Et pour ça, on pourrait intégrer ça dans les... Si on veut intégrer ça vraiment à la main pour les éoliens par des lois physiques, c'est très, très difficile. Et du coup, ce qu'on fait, c'est de laisser parler un peu les données. On utilise des données, par exemple, les deux dernières années d'un parc, comment il a produit, et on regarde quel vent était prédit à ce moment-là, de quelle direction il venait, et toutes ces informations qu'on a. Et après, on entraîne des modèles de machine learning ou de l'intelligence artificielle qui vont maintenant essayer de trouver des corrélations entre le vent prédit et la production qu'on a. Et du coup, pour le futur, si on a un vent prédit pour demain de telle intensité, de telle direction, on peut, avec notre modèle, dire ça va donner à peu près cette production. On peut s'attendre à cette production. Et avec ça, c'est très important pour la gestion des réseaux électriques.
D'accord. Donc, c'est grâce aussi au machine learning.
Oui.
Est-ce que tu peux expliquer un peu davantage comment est-ce que vous utilisez ça ? Est-ce que toi, ton rôle est très lié ? J'imagine que c'est très lié à ça.
Oui, alors après, c'est très difficile d'expliquer vraiment qu'est-ce que fait un modèle machine learning. C'est un peu une boîte noire pour nous. Alors, on va rentrer plein de données et il va essayer de faire plein de corrélations entre les données. D'entrée, du coup, ce sont pour nous maintenant les prévisions de météorologiques. Et après, on a les données de ce qu'on veut prédire, la production d'éolien, dans ce cas. Et du coup, le modèle, il va essayer de trouver des corrélations. Alors, par exemple, il va dire toujours quand le vent qui est prédit, qui vient du nord à cette vitesse-là, l'éolienne, en général, elle produit ça. Et si le vent, il vient du sud, peut-être elle produit un peu moins, parce qu'elle est à l'ombre de l'autre éolienne, ou des choses comme ça. Et du coup, le modèle, vu qu'il y en a plein de données, si on a des données à l'heure, et du coup, si on a des données de deux ans, ça, et chaque heure, on a une donnée, ça fait vraiment beaucoup de données. Et du coup, grâce à toutes ces données, le modèle, il peut vraiment apprendre des relations entre les données.
Très bien. Et donc, toi, là-dedans, Quand tu joues avec ces données, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que tu récupères les corrélations qui sont produites et tu essayes de lire
Moi, quand je travaille avec les données, parce que je suis dans le dans l'équipe de recherche et développement, du coup, on essaye de vraiment améliorer ces modèles qu'on a déjà en place. Et du coup, ce que moi, je fais, les données, ils existent déjà, c'est des codes qu'ils ont déjà écrits et qu'on peut utiliser, qu'ils ont ce qu'on s'appelle open source, du coup ils ont gratuit. Et mon code avec Python, si ça parle à des gens. Et du coup, c'est un langage de code qu'on utilise.
Et qui vous permet de faire quoi en fait ? Parce que du coup, vous collectez ces données vous avez récoltées, le comportement de ces éoliennes, les données de météo que vous avez captées, toutes les données aussi open source, etc. Et après, avec Python, donc ce langage informatique, vous codez
Ce qu'on code, c'est qu'on va déjà importer les données. Du coup, on a les données dans un fichier et on va les importer. Et après, on va appliquer le modèle de machine learning qui existe déjà, mais qui va après lire ces données. Et on va l'entraîner, ça s'appelle. Du coup, on va lui donner un set d'entraînement. Et après, on va lui dire, ça, ce sont les données qu'il va entraîner. Et ça, ce sont les données qu'on va essayer de prédire. Et après, le modèle, il va essayer de trouver les corrélations. Et après, on a un set de données de test sur lesquelles je vais appliquer mon modèle. Je vais essayer de prédire la prévision d'éolien à l'aveugle où je n'ai pas encore les prévisions. Et après, je vais comparer ça, ce qui était prédit, avec la vraie prévision que j'ai. Et je vais, avec ça, je peux évaluer mon modèle, est-ce qu'il a bien prédit ou pas, et je peux essayer de trouver différents modèles, et je vais maintenant essayer avec quel modèle je vais avoir la meilleure prévision possible. Alors, avec quel modèle je suis plus, le plus proche à la réalité. Du coup, il y a toujours, dans le machine learning, data science, il y a toujours, on sépare toujours notre donnée dans un set de tests, train et un set de tests. Du coup, on va entraîner sur un modèle et après, on va tester notre modèle sur un autre set sur lequel on a les données. On sait qu'est-ce qu'il doit prédire, mais on ne va pas lui donner un modèle et on va voir est-ce que le modèle est prédit bien sur ce qu'on sait qu'il est en réalité prédit.
Donc, vous créez finalement une machine qui doit brasser les données pour vous donner pour ensuite vous fournir une information construite et qualifiée sur la base de toutes ces données d'entrée que vous lui avez fournies. Et pour vérifier que le modèle que vous avez construit fonctionne bien, vous faites aussi des tests pour vous assurer que ça vous emmène vers les bonnes informations avant de le faire tourner sur les 2 années, par exemple, ouais, de données que vous avez pu récolter, quoi.
Oui, exactement. Après, souvent, si j'ai 2 années, par exemple, j'entraîne sur une année et je prédis sur une deuxième année et je regarde est-ce que ça prédit bien sur cette année, sur ce que était mesuré en réalité.
Donc, c'est vraiment un travail de recherche.
Oui, pour c'est la recherche dedans, c'est vraiment de trouver le bon modèle, oui.
Et j'imagine que parfois on a des déconvenues ou en tout cas ça fonctionne pas forcément toujours de manière espérée.
Oui, c'est sûr. Parfois on a l'impression que par exemple une donnée ça devrait vraiment aider beaucoup parce que c'est une donnée de la météo qui fera du sens d'intégrer. Et finalement, on voit que ça apporte pas vraiment grand-chose. Ça peut arriver, oui. Ou qu'on a une idée qu'une chose pourrait améliorer. Et parfois, par rapport à les données, ça apporte pas quelque chose. Du coup, c'est un peu parfois une petite boîte noire.
Quels sont les usages ?
Les usages de notre produit, de la production éolienne, ça peut être par exemple qu'un propriétaire d'un parc, il doit prédire pour le lendemain combien de production il va à peu près produire pour intégrer dans le réseau électrique. Ou il y a d'autres usages que les traders qui vont trader l'énergie. Ils veulent savoir en avance à peu près quel prix il va avoir le lendemain pour pouvoir spéculer s'ils doivent acheter ou vendre d'électricité. Et du coup, à ce moment-là, c'est important vu qu'il y en a de plus en plus d'énergie renouvelable dans le marché, ça joue un rôle. S'il n'y a pas beaucoup de vent, il va avoir un manque d'électricité, ou il y en a beaucoup de vent, il va avoir beaucoup d'énergie. Du coup, l'électricité pourrait être peut-être moins chère. Et du coup, avec des prévisions de production éolienne, ils peuvent avoir une information de plus pour pouvoir spéculer sur le marché énergétique.
Et toi, ton but, c'est toujours d'affiner ces prévisions pour toujours donner la meilleure information, la plus juste ?
Oui, c'est ça. Du coup, on essaie vraiment d'améliorer de plus en plus notre prévision, d'être vraiment à l'actualité des modèles de machine learning, de l'intelligence artificielle. Par exemple, il y a aussi des réseaux de neurones qui deviennent de plus en plus importants dans le domaine.
En quoi ça ?
Des réseaux de neurones ?
Oui.
Des réseau de neurones, c'est un peu, il prend comme idée un peu les réseaux de neurones humains, du coup un cerveau, et du coup ils vont aller beaucoup plus loin dans les croisements de données, et c'est juste une nouvelle méthode ou une autre méthode de machine learning. C'est dans le machine learning, mais il y a les corrélations, relations linéaires, il y a le modèle de machine learning assez simple, et après des réseaux de neurones, ce sont des modèles de machine learning beaucoup plus poussés qui vont aller beaucoup plus loin peut-être dans la recherche des corrélations entre les données.
Donc c'est plus puissant ?
Oui, mais après il faut quand même voir comment on peut adapter ça par cas, parce que c'est du coup aussi beaucoup plus compliqué de trouver le bon réseau de neurones pour notre problème.
D'accord, donc une multitude d'outils, j'imagine, mais toujours à utiliser en fonction du contexte qu'on a pour se simplifier la tâche et arriver au plus près de ce qu'on des précisions enfin des prévisions qu'on recherche.
Ouais, c'est exactement ça. Je pense que ça vient résumer le data scientist, il sait à peu près qu'est-ce qui existe plus ou moins comme outil, comme modèle, et après c'est à nous de chercher le bon modèle pour notre problématique.
D'accord. Et alors pour remplir cette mission au sein de l'entreprise, vous êtes combien à faire ça? À travailler sur en data scientist.
Alors là, on est équipe R&D, on est 4. Du coup, nous, on fait vraiment cette recherche de trouver les meilleurs modèles. Et après, il y a l'équipe développeur qui est en train de, on dit ça, mettre en production. Du coup, mettre les modèles, écrire les dans un langage, dans un code qui sera applicable pour les clients ou pour rendre pour créer le produit final. Et là, il y en a des développeurs purs, mais aussi des data scientists. Non, du coup, je ne peux pas dire exactement combien de data scientists on est. Mais...
Donc, vous êtes une équipe de data scientists en R&D où vous identifiez les modèles,
ouais.
Vous les testez, vous voyez ce qui fonctionne pour obtenir des prévisions. Et ouais. Après, dans une autre équipe, on a le côté production, entre guillemets, où on a à la fois des développeurs qui vont industrialiser, coder de manière à ce que le modèle soit... efficace et robuste pour répondre aux attentes clients, avec des data scientists qui font aussi l'interface entre, j'imagine, ce que vous faites et ce que font les développeurs.
Ouais, on peut dire ça. Je pense que c'est bien.
Ok. Et Isabelle, une question qui n'a rien à voir, mais qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ?
Ouais, quand j'étais petite, en fait, je savais jamais qu'est-ce que je veux faire. En gros, je savais que je veux faire des études. Mais c'était un peu tôt. J'étais toujours intéressée par les sciences. Et après, je dirais, plutôt autour de mon bac, j'ai commencé à savoir ce que je voulais faire. Au début, c'était plutôt la chimie. Après, on avait des cours en chimie de climat. On a parlé de changement climatique et tout ça. Et ça m'a vraiment passionnée et intéressée. Et un peu alertée aussi. Ça fait un peu peur, c'est sûr. Et du coup, j'ai décidé de faire mes études dans cette direction pour pouvoir faire quelque chose qui pourrait à la fin nous aider pour lutter contre le changement, l'échauffement climatique.
Donc, ouais. Dans cette direction, c'est-à-dire, tu as fait quoi comme cursus ?
Alors, j'ai fait mes études en début en Allemagne en météorologie, la licence, et après, je suis venue en France pour faire le master en mécanique des fluides applicables à l'environnement. Du coup, c'était aussi météorologie, océanographie un peu plus large. Après, j'ai fait une thèse plutôt dans le mécanique des matériaux. C'était chez Météo France, dans le centre de recherche des avalanches, de la neige. Du coup, c'était sur les avalanches, sur la cohésion des grains de neige. Et après, à la fin de thèse, je ne voulais pas suivre je ne voulais pas rester en recherche, je voulais plutôt travailler en entreprise pour être plus appliqué et vraiment faire quelque chose pour l'environnement, qui a un lien avec l'environnement ou le changement climatique, qui pourrait apporter là quelque chose.
Tu voulais avoir un impact.
Oui, c'est ça. Ouais.
Donc depuis très tôt, tu t'es intéressée à la météorologie. Est-ce que tu as toujours voulu faire data scientist ou est-ce que tu visais peut-être d'autres métiers ?
Pas forcément data scientist. Au début, c'était vraiment de météorologie ou climatologie qui me passionnait. Après, quand j'avais fini ma thèse, j'ai regardé un peu les postes qui existent et c'était souvent ce qui m'intéressait avec le data scientist ou data analyst dans le métier. Et je sentais vraiment qu'il faut que j'approfondisse mon savoir là-dedans et du coup, j'ai fait une formation comme data scientist. Avec le campus numérique in the Alps, ici à Grenoble. Et c'était une formation qui s'appelle Data Plus 8. C'est pour les docteurs, des scientifiques docteurs qui ont fait une thèse et qui veulent intégrer le savoir de data scientist, data analyst, pour pouvoir trouver plus facilement un travail derrière. Et du coup, c'était un peu parfait pour moi, cette formation. Du coup, je l'ai suivie. Et j'ai commencé mon alternance à MeteoSwift. Qui combinait un peu les deux choses, la météorologie et la data science. Et du coup, pour les énergies renouvelables, du coup, c'est vraiment ça qui est important et vraiment nécessaire aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique.
Oui, c'est super intéressant. Tu as réussi à combiner finalement tes deux intérêts, le côté data scientist avec le côté météorologie.
C'est ça.
En une entreprise.
Ouais, j'ai eu la chance avec ça.
Super. Parce que c'est vrai qu'en fait, data scientist, tu pourrais l'exercer dans tout un tas de domaines. Ça pourrait être utilisé dans tout un tas de secteurs. J'imagine que parmi peut-être tes anciens camarades de classe au campus numérique INSEALPS, il y a tout un. Ils sont partis sur des horizons variés.
Ouais. Aujourd'hui, surtout, les data scientists sont très cherchés. C'est appliqué à plein de domaines. Il y en a vraiment en biologie, en médical, mais un peu partout. On le trouve vraiment partout.
Est-ce que tu penses que c'est une plus-value sur ton profil d'avoir eu une expérience, enfin un autre cursus avant d'aller sur le métier, enfin de te former aux data?
Oui, je pense, parce que souvent aujourd'hui, il y a deux types de data scientists. Il y a ceux qui ont vraiment fait ça comme étude. Du coup, ils ont peut-être plus fort dans tout ce qui est codage, connaissance des modèles, tout. Mais après, ils vont peut-être moins savoir la physique, pour mon cas, là, maintenant la météorologie ou l'application derrière. Et du coup, c'était aussi un peu le but de la formation, d'avoir un peu des personnes de double casquette qui peuvent faire un peu l'intermédiaire entre les deux. Peut-être on n'a pas autant de savoir-faire dans le domaine de machine learning ou d'intelligence artificielle, mais on a cet autre savoir de l'autre domaine, de notre domaine d'où on vient, et du coup on a peut-être d'autres idées un peu aussi. Là, chez MeteoSwift, je peux vraiment apporter des informations météorologiques derrière qui peuvent vraiment apporter aussi des nouvelles idées et mettre un peu dans le contexte.
Donc c'est intéressant, même si on peut avoir fait des études de toute autre chose, de se dire qu'on peut se reconvertir dans les métiers de data science. Il existe des formations d'ailleurs pour ça.
Ouais, c'est ça.
Et quelles sont, selon toi, les qualités qu'il faut avoir pour être data scientist? Les compétences et les qualités.
Il ne faut pas trop avoir peur de travailler toute la journée derrière l'ordinateur. Du coup, pas avoir peur de coder. Et surtout, il faut être curieuse. Parce que c'est vraiment... Il faut apprendre, voir des nouveaux modèles, rester un peu... à l'actualité, qu'est-ce qui sort, parce que c'est un domaine qui change beaucoup, qui change encore très vite, et beaucoup de recherches derrière. Après, je pense que si on a ça, c'est déjà bien.
Et il faut savoir coder, donc.
Oui. Après, la formation, moi, je savais coder pendant la thèse. J'ai déjà beaucoup travaillé avec des données, mais jamais comme data scientist, où on essaie de prédire quelque chose avec les données. Moi, c'était plutôt analyser des données, niveau scientifique. Après, dans notre formation, il y avait des gens qui n'ont jamais codé ou presque jamais, et à la fin, ils avaient à peu près le même niveau que moi qui a déjà codé ou autre. Du coup, avec une formation, on peut y arriver.
Ça s'apprend.
Si on a une envie, et je pense que cette envie d'apprendre des nouvelles choses, c'est vraiment important aussi.
Et donc, ce que tu dis aussi, c'est qu'il faut se maintenir à jour. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Quand on est dans ces métiers-là, ça bouge tout le temps, ça va très vite.
Oui, surtout si on est en R&D. Je pense que c'est quand même bien d'avoir toujours un œil sur ce qui se passe.
Et donc, après, finalement, tes études, ta thèse, tes nouvelles études, entre guillemets, reconversion ou en tout cas formation à la data science, tu as intégré MeteoSwift à Grenoble. Et finalement, c'est une start-up. Est-ce que... pour toi, ça a été un choix de t'orienter vers une start-up. Alors, je sais que l'activité te correspondait tout à fait parce que ça mêlait aussi le côté météorologie. Le côté start-up, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
C'était pas mon premier choix, mais ça me correspondait très bien. On peut dire ça comme ça. Parce que je pense que c'est... Moi, je trouve que c'est hyper intéressant de voir un start-up. On est beaucoup plus proche de ce... comment l'entreprise évolue, on voit aussi beaucoup plus quel impact on a dans l'entreprise parce qu'on va directement commencer à appliquer et que vraiment à quoi ça sert dans l'entreprise, comment elle évolue avec le temps. Après, il y a aussi cet aspect qu'on est assez petit, on a une quinzaine de personnes, ce qui me convient bien parce que j'aime bien de me sentir assez bien d'avoir cet aspect personnel parce qu'on connaît tout le monde, on est proche et il y a une dynamique qui est assez motivante et on voit que tout le monde est vraiment appliqué dans le travail, tout le monde est passionné et du coup il y a cet enthousiasme dynamique qui est vraiment motivant pour le travail de tous les jours.
Et quelles sont tes perspectives de carrière et d'évolution dans ce job ?
Pour l'instant, ça fait une bonne année que je suis là. Alors, pour moi, les perspectives évolution, j'ai pas beaucoup. C'est juste trouver le plaisir tous les jours à travailler et vraiment avoir cette cohésion avec les collègues, de trouver, avoir le plaisir de travailler. Et je pense qu'améliorer la prévision, faire quelque chose pour le changement climatique, pour avoir l'impression d'avoir un impact pour ça. Et ouais, je pense que je dirais que c'est ça. Tant que j'ai cette motivation, c'est le plus important pour moi.
Super. Le matin, en start-up, vous avez certainement, souvent j'entends parler de rituels agiles. Est-ce que ça concerne aussi ton service ?
Non, pas pour les R&D. Agile, c'est beaucoup utilisé pour des développeurs, mais après, moi, R&D, Agile, c'est souvent, on a des petites tâches à faire avec des délais assez courts et assez faciles à finir. Et pour en recherche, c'est assez difficile d'intégrer ça parce que on pense que peut-être ça prend qu'une journée, mais après on trouve d'autres choses, on va un peu plus loin et après un projet, c'est très difficile à scaler combien de temps on va travailler dessus. La journée type à peu près, on peut dire aussi que le matin on vient, on regarde les modèles qu'ils ont tournés la nuit, on regarde qu'est-ce que ça a comme résultat et après on va voir, essayer de comprendre, interpréter les résultats ou voir le modèle à planter. Du coup, il faut revoir qu'est-ce que j'ai fait mauvais dans le code, réécrire, revoir comment on peut faire mieux, comment on peut résoudre ça et après, le soir, essayer de finir pour pouvoir lancer le nouveau code pour la nuit.
Pour la nuit. Donc c'est la nuit que finalement les choses se passent.
Oui, bah c'est la nuit où le code il va travailler pour nous et on peut se reposer et l'ordinateur fera le travail et après le lendemain nous on reprend le travail et on regarde.
Vous obtenez les éléments.
Ouais, on obtient les éléments, on regarde si ça nous plaît, qu'est-ce que le résultat ou si il faut qu'on rechange des choses dans les modèles pour revoir, pour pouvoir peut-être améliorer les résultats.
Il y a eu un moment dans ton job où tu as eu une joie incommensurable parce que quelque chose fonctionnait bien ou à l'inverse
C'est toujours très motivant quand on voit qu'on a un résultat ou on a amélioré le code, où on voit là c'est vraiment une bonne amélioration, on voit que là la prévision elle est beaucoup mieux qu'avant, où on voit vraiment que ça aide. Après il y a parfois aussi bien sûr des moments où c'est dur parce qu'on essaye d'intégrer une nouvelle, on a une idée où on est persuadé que ça va améliorer quelque chose et à la fin ça n'améliore pas. Et du coup c'est un peu, après il faut se remotiver et retrouver une nouvelle idée. Et
Il y a des hauts et des bas quoi.
Oui, c'est sûr, mais je pense que c'est dans toutes les postes.
Ok, est-ce que tu aurais un mot à dire pour encourager nos auditeurs à travailler dans une start-up?
Alors, si on aime travailler dans une équipe qui est vraiment motivée par ce qu'il fait, qui est persuadée par le bien que l'entreprise va apporter, c'est là vraiment que travailler dans une start-up, ça apporte beaucoup parce qu'on voit vraiment cette motivation. Tout le monde est motivé, encouragé et vraiment persuadé que ce qu'on fait, ça va avoir un impact, ça va avoir une idée pour le futur, ça va apporter une nouvelle chose. Et je pense que c'est ça ce qui est vraiment, si on veut travailler dans un environnement qui est motivant, qui est innovant, c'est donc, qu'il faut aller dans un start-up.
Et le côté impact aussi, si on veut avoir un impact sur la société.
Sur la société, mais aussi si on veut avoir un impact juste uniquement, qu'on veut voir que son travail a un vrai impact dans l'entreprise. Si on est petit, on va vraiment voir cet impact aussi. Et on va apprendre aussi plein de trucs dans un start-up parce qu'on est beaucoup plus proche aux fondateurs, mais aussi aux autres collègues. Et du coup, vu que ce sont vu que c'est plutôt petit, on va avoir le contact et on va pouvoir suivre aussi beaucoup plus l'évolution de l'entreprise.
Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Isabelle.
Merci.
C'était le podcast Startup Job Story. Merci à toutes et tous pour votre écoute. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Rendez-vous aussi sur www.startupjobstory.com. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire.